Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Studio ZEF pour une émission spéciale sur les SISM. Qu'est-ce que c'est que ça? Les semaines d'information sur la maladie mentale organisées sur tout le territoire du 18 au 31 mars. Alors on se retrouve aujourd'hui à l'initiative de Cap Emploi 41, association qui participe à cet événement, et avec mes invités, nous allons débattre autour du thème de la santé mentale à l'ère du numérique. Alors comme nous avons très peu de temps et que mes invités trépignent d'impatience devant le micro, eh bien je vais tout de suite vous les présenter. J'ai donc près de moi Julie, Bérangère, Laurent, Lucie, Bruno, Jean-Pierre, Chloé Guiss et Séverine Matenet. Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va, vous êtes bien installés devant votre micro, hein ?
Oui.
Alors, on va faire cette émission en deux parties. Tout d'abord, je voudrais, Séverine, que vous nous disiez peut-être ce que c'est que Cap Emploi. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation ? Je rappelle que vous êtes donc chargée de mission. C'est
chargée de mission.
Voilà. Ben, je vous laisse vous présenter et puis dire un petit mot sur Cap Emploi.
Oui, donc Cap Emploi, c'est un service porté par l'association Prométhée. Notre siège est à Vineuil. Notre mission est une mission de service public. Elle est d'accompagner des personnes en situation de handicap dans leur démarche d'insertion ou de maintien en emploi. On intervient un petit peu partout dans le Loir-et-Cher, sur Romorantin, Vendôme, Montrichard, Saint-Aignan. Nous travaillons en collaboration avec les entreprises du Loir-et-Cher, le Pôle emploi et tous les partenaires de l'insertion et de la santé.
On peut rentrer directement dans le vif du sujet peut-être pour parler de ces fameuses semaines d'information sur la santé mentale. Alors ce sont des événements qui se font sur tout le territoire. Et cette année, donc, si j'ai bien compris, le thème général, c'est la santé mentale à l'ère du numérique. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que c'est que ces semaines d'information sur la santé mentale et depuis combien de temps ça existe ? Parce que on a fait le constat qu'on n'en entend pas beaucoup parler.
Alors, c'est l'Association française de psychiatrie qui a créé la CIS, donc Semaine d'information sur la santé mentale, dans les années 90. L'idée, c'est de pouvoir lutter contre la stigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiques. C'est l'occasion, pendant ces semaines, de construire des projets en partenariat et de parler de la santé mentale à l'ensemble de la population. Plusieurs thèmes ont été traités. Il y a eu par exemple la parentalité, culture, société et santé mentale, l'adolescence par exemple. C'est les derniers thèmes traités.
Ouais.
Cette année, donc l'objectif, c'est de sensibiliser, informer, rassembler, aider et faire connaître les acteurs locaux. Donc cette année, thème de la santé mentale à l'ère du numérique. Donc depuis la démocratisation d'Internet dans les années 1990, les technologies de l'information et de la communication ont touché toutes les sphères de notre société. Et la santé mentale est concernée par ce virage numérique.
Alors, j'ai vu aussi que parmi vos missions, vous intervenez donc effectivement auprès des entreprises pour l'insertion.
Oui, aussi. Notre rôle est aussi de sensibiliser les entreprises,
ouais,
à l'emploi des personnes en situation de handicap et notamment le handicap psychique.
D'accord. Bon, c'est difficile à dire, on va pas faire. Il faudra une émission pour en parler, mais est-ce que juste avec. De par votre expérience, aujourd'hui, vous pouvez dire qu'il y a quand même de plus en plus une sensibilité par rapport au handicap et au travail.
Ça tend à évoluer.
Oui.
Ça dépend aussi de l'entreprise, de sa culture, de son dirigeant, souvent, des ressources humaines. Maintenant, voilà, il y a encore un peu de travail par rapport à la sensibilisation, mais effectivement, ça évolue. Et je pense qu'on parle aussi beaucoup du handicap aujourd'hui en entreprise.
Oui.
On identifie souvent maintenant un référent handicap dans les entreprises. Donc, les choses évoluent.
Alors, près de moi, donc, j'ai Bérangère. Bonjour. Rebonjour, Bérangère.
Bonjour.
Et Julie.
Bonjour.
Et Laurent.
Rebonjour.
Rebonjour. Alors, peut-être que quelqu'un veut prendre la parole en premier déjà pour se présenter, dire brièvement, pour que les auditeurs comprennent bien, dans quelle situation vous vous trouvez par rapport à l'emploi. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un emploi et comment vous vous situez donc par rapport à Cap Emploi, parce que toutes les personnes qui sont présentes ici donc, sont accompagnées par vos services, Séverine, c'est ça ?
Hormis Jean-Pierre,
qu'on entendra tout à l'heure. Laurent, un petit mot ?
Je vais passer pour quelqu'un de pas galant. c'est l'homme qui commence. Alors, bon, que vous dire ? Moi, je m'appelle Laurent Denis, j'ai 29 ans. J'habite Saint-Aignan, qui est dans le sud du département, pour ceux qui connaissent. Je suis en recherche d'emploi depuis 2015 et je fais des petits boulots pour le moment. Notamment un service civique, bon, je passe les détails.
Oui.
C'est là où j'en suis. Par ailleurs, si vous cherchez de quelqu'un de dynamique, de motivé, j'ai le permis, je suis dynamique, je suis mobile, 06 26 47 46 22, n'hésitez pas.
Alors, écoutez, on s'y attendait pas.
Bon, secrétariat, alors, accueil.
On va faire une petite rubrique petites annonces. Hein. Ça est dedans. Merci Laurent. Bérangère, je vous laisse vous présenter à votre tour.
Alors, donc Bérangère, je suis demandeuse d'emploi depuis le 16 août. Je suis suivie par Cap Emploi. Et voilà.
D'accord. Vous arrivez quand même à faire des petits boulots de temps en temps
Actuellement, non. Actuellement, fais un visa pro numérique.
Oui, alors vous nous expliquerez après ce que c'est, parce qu'on ne connaît pas très bien tout ça. Hein. Vous allez nous éclairer sur la question.
Très bien.
Et Julie ?
Oui, moi c'est Julie, j'ai 33 ans et donc je cherche un emploi depuis mars 2018, donc en tant qu'assistante vétérinaire. Et donc attendant...
Vous avez des pistes ?
Non.
Non, pas vraiment ?
Non, je fais des stages pour me faire un réseau et garder l'expérience.
D'accord. Vous allez nous dire un petit peu comment vous vivez justement au quotidien cette situation où on est en difficulté pour chercher du travail. On va commencer peut-être par évoquer peut-être comment vous utilisez en fait le numérique au quotidien. Alors ça peut paraître être une question bête, mais est-ce que vous avez tous déjà accès à Internet chez vous ?
Oui.
Julie,
oui,
c'est bon, il n'y a pas de souci. Vous maîtrisez, Julie, vous maîtrisez tous ces outils numériques à peu près
à
ou pas ?
À peu près, je pense que c'est plus ma génération où j'ai j'ai découvert ça pendant l'adolescence, donc j'ai pu apprendre assez facilement.
Oui, donc les réseaux sociaux, tout ça, ça vous est familier ?
Oui, pas tous. Hein. Après, je ne suis que sur Facebook, par exemple.
D'accord. Et Facebook, vous maîtrisez, ça va.
Oui.
Bérangère, pour vous qui recherchez un emploi justement, est-ce que ça peut être un outil qui vous aide ?
Ça pourrait m'aider, mais bon, des fois c'est un peu compliqué quand même quand vous n'avez pas l'habitude. Quand vous n'avez pas l'habitude du numérique, je vais vraiment par obligation par rapport à depuis que je suis inscrite sur Pôle Emploi. Pour faire mon actualisation, bon, maintenant je me mets sur mes mails et tout ça, des choses que je ne faisais pas. Par contre, me parler de réseaux sociaux, non, je n'y vais pas du tout.
Vous n'y allez pas parce que ça ne vous intéresse
non,
pas.
Non, ça ne m'intéresse pas.
Oui, c'est ça.
Ça ne m'intéresse pas.
Et vous n'avez pas l'impression que ça vous manque ?
Non, ça ne me manque pas du tout. Non, ça ne me manque pas du tout.
Et Laurent ?
Le problème, c'est que heureusement que j'ai mes parents qui habitent à 100 mètres parce que chez moi, je n'ai pas le Wi-Fi ni rien et pas d'ordinateur, mais régulièrement, je fais mes démarches chez eux. J'ai un petit moment. Mais sinon, après, le numérique, contrairement à Bérangère, c'est pas quelque chose... Enfin, je peux comprendre qu'on puisse fuir et qu'on puisse en avoir peur, mais j'aimerais quand même mettre un message d'espoir sur le numérique qui est quelque chose qui peut faire peur, mais pour donner des exemples, on traverse la rue, on peut se faire écraser, on prend la voiture, on peut avoir un accident. On prend son ordinateur, on va sur Internet, on peut se faire pirater. C'est un risque. Après, il faut apprendre à marcher dans la rue, il faut apprendre à conduire, il faut apprendre à aller sur Internet. Ce n'est pas quelque chose qui est compliqué si on a... Après, il faut avoir la chance d'avoir des cours. Mais quand on s'y met, essayer de dépasser ses peurs. Je pense que si on dépasse ses peurs, ça peut être quelque chose qui, après, peut être familier. Ce que je regrette, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent fuir Internet comme Bérangère ici présente. Et on nous impose ça comme une masse. Ça, c'est quelque chose à laquelle je ne suis pas vraiment d'accord. Je suis un peu vieux jeu. Il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans, on pouvait très bien se passer de ces outils. Et maintenant, aujourd'hui, c'est indispensable. Pour trouver un travail, c'est indispensable. Et faut quand même reconnaître que un chômeur, il touche le RSA. La plupart du temps, il touche le RSA ou alors pas grand-chose. Donc pour s'acheter, moi, c'est pour ça que je n'ai pas de box Wi-Fi chez moi ou pas d'ordinateur.
Parce que vous n'avez pas les moyens.
Parce que je n'ai tout simplement pas les moyens. Après je voudrais quand même, pour rentrer dans le vif du sujet...
Par rapport à l'emploi, si on reste là. Est-ce que vous avez des outils, justement? Est-ce que vous allez sur des sites, par exemple, spécialisés, ou vous restez sur les annonces de Pôle emploi pour essayer de trouver du boulot?
Alors, je ne reste pas que sur les annonces de Pôle emploi. J'utilise notamment quelque chose que vous connaissez certainement, qui s'appelle Indeed. Je ne sais pas si tout le monde connaît, et vous à la maison. On s'inscrit, on tape... à peu près les domaines dans lesquels on veut se spécialiser, je ne sais pas, menuiserie, accueil, et vous recevez après des offres dans votre région, puisque vous mettez aussi le lieu où vous habitez. Alors, faut quand même reconnaître, là où je comprends pas très bien Indeed, c'est que j'ai l'impression, c'est personnel, hein, c'est très personnel ce que je vais dire, mais j'ai l'impression de recevoir un peu tout et n'importe quoi. Par exemple, j'ai tapé pas mal accueil, tourisme aussi, parce que j'aimerais me
travailler. Vous aimez, dans les accueils, oui, voilà. On a bien compris.
Le château de Loire. Non, mais voilà, c'est juste pour vous dire, voilà, tapez les mots-clés et puis je reçois. Et puis pareil, comme je suis en train de passer mon BAFA, je tape animateur et je me retrouve parfois avec des trucs comme... on vous offre un poste de directeur de centre de loisirs, directeur de mise en place de je ne sais pas trop quoi. Je suis en recherche d'emploi, je ne serais pas capable, absolument incapable de diriger qui que ce soit.
Vous êtes en train de nous dire que parfois, avec vos recherches, quand vous rentrez des mots-clés, j'imagine, sur un moteur de recherche, ça ne vous renvoie pas finalement les réponses que vous attendez.
Très peu.
Ou c'est décalé.
Très peu, c'est complètement décalé. Et puis, c'est absolument pas... Enfin, je sais pas comment ça marche. Enfin, quand on me propose quelque chose, directeur de je sais pas quoi, oui, très bien.
C'est pas ça que vous avez demandé à la base. C'est ça que vous
Non, je cherche à trouver un emploi le plus rapidement possible et à progresser dans la vie active. Je suis absolument pas capable de diriger...
Ça vous est arrivé, Julie Bérangère?
Non,
ça, a priori, Julie, quand vous ciblez vos recherches, vous avez la réponse adéquate, en général?
Oui, parce que je vais sur des sites spécialisés.
D'accord.
Sur Pôle emploi, c'est pas... Oui, ça peut me proposer... j'ai eu, par exemple, aussi une proposition de poste directeur de SPA. Donc je peux pas diriger non plus, j'ai aucune expérience là-dedans. Ouais. Donc, voilà. Mais sinon, sur les sites spécialisés que je connais, oui, c'est là... Je trouve forcément les offres auxquelles je souhaite.
Alors justement, comment avez-vous eu connaissance de ces sites spécialisés? Est-ce que c'est une recherche personnelle ou ça fait partie aussi d'un accompagnement?
Non, c'était au cours d'un stage où je parlais avec une collègue qui expliquait que je ne trouvais aucune offre sur Pôle emploi. Et qui m'a dit, mais non, mais tu vas sur ce site, celui-là, celui-là, et tu vas voir, les offres, elles sont toutes là. Et effectivement, c'est beaucoup de groupes Facebook privés.
Ah oui. Où,
en fait, ils posent des questions sur le métier, pour être accepté. Une fois qu'on donne les bonnes réponses, ils nous acceptent. Et on a accès à toutes les offres des personnes qui disent « je vais lâcher mon poste dans telle région, on va chercher quelqu'un pour le reprendre voilà, ».
Ça a quelque chose de plus personnalisé, la recherche sur Facebook, quelque part?
Oui, un peu.
Ouais. Parce que c'est des pages... Quand vous dites que c'est privé, ça veut dire que ce sont des pages professionnelles?
C'est des pages professionnelles. Il faut faire une demande d'adhésion. Tout le monde ne peut pas aller voir. On peut voir la page, d'accord, mais on ne peut pas aller voir le contenu si on n'est pas membre.
Bérangère, ça vous est arrivé aussi
de
tomber à côté finalement?
Oui, carrément. Oui, c'est,
d'avoir des réponses un peu...
Oui, quand vous faites une recherche, y a des fois plusieurs pages qui s'ouvrent. Et quand vous ne maîtrisez pas forcément le numérique, ça vous embrouille. Enfin, moi, je parle pour ma part. Hein. Moi, ce qui me manque, c'est l'interlocuteur. J'aime bien avoir la personne en face de moi et répondre à mes questions. Enfin, j'ai besoin de ça. Donc après, chaque personne est différente. Mais bon, je fais des efforts parce que par obligation, je suis obligée de m'y mettre. Mais ce qui manque, c'est l'interlocuteur. Moi, j'ai besoin d'avoir la personne en face de moi, d'avoir mes réponses directement.
Alors, comment faites-vous justement pour avoir votre interlocuteur?
Tout simplement, je me déplace.
Ouais.
Je me déplace.
Donc, Par exemple, là, vous êtes inscrite à Pôle emploi,
oui,
vous
oui.
avez des rendez-vous réguliers.
Enfin, là, je suis suivie par Pôle emploi, mais ouais. je suis plus suivie par Cap emploi.
Cap emploi, ouais.
Donc, voilà, je me déplace s'il y a besoin. Mais bon, maintenant, comme je disais, je me mets sur ma boîte mail et tout ça. Ça, j'ai bien progressé. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait un visa pro-numérique. Hein, donc, ça m'a bien aidé à...
Alors, vous pouvez nous expliquer justement...
Alors, le visa pro-numérique... C'est un visa pour vous pour gérer bien ce numérique, Excel, Word et PowerPoint. Donc ça m'a quand même beaucoup aidé parce que j'étais vraiment dans le néant, hein. Excel et tout ça, c'était pas mon truc. Donc ça m'a bien aidé. Ça, j'ai suivi ça au Greta, donc c'est très très bien.
Ouais.
Enfin, il y a d'autres organismes qui le font,
oui.
hein. Mais ça, le visa pro numérique, quand une personne n'est pas du tout à l'aise, ça l'aide beaucoup. Moi,
très
je
bien.
Sais que ça m'a fait reprendre confiance en moi quand même. Hein. Donc, voilà.
Et Séverine, à propos de ce visa pro-numérique, c'est proposé régulièrement
oui,
ce genre de formation.
C'est une formation gratuite, financée par la région Centre. Donc plusieurs organismes, effectivement, le proposent et sur différents sites en Loire-et-Cher. Donc, c'est l'avantage, c'est qu'on peut trouver des visas sur Blois, sur Saint-Aignan, sur Vendôme, sur Romorantin. C'est des petites formations courtes, on va dire, d'une quarantaine d'heures. Et effectivement, ça permet de démarrer, de débuter quand on n'est pas initié encore à l'outil.
Très
ne
bien.
Serait-ce qu'envoyer un message avec une pièce jointe, forcément
tout
évident.
À fait. Maintenant, j'arrive à envoyer une pièce jointe, que ça, je ne savais pas, scanner, je ne savais pas. Enfin, voilà, j'étais vraiment dans le néant avec le numérique et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Ça, voilà. Mais moi, je suis quand même une petite chose qui m'interpelle. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis dans un petit peu vieux jeu. J'ai besoin de l'interlocuteur en face de moi. Mais moi, je pense à ces gens qui, malheureusement, ne peuvent pas forcément avoir un numérique chez soi. Et où ils ne reçoivent pas la Wi-Fi, comme tu disais, c'est vrai. Ça, c'est un coût. Enfin, voilà, et au jour d'aujourd'hui, c'est quand même un appareil, on est obligé de l'avoir chez nous, enfin, le numérique, parce que vous faites plein de choses avec. Hein. Donc moi, je pense à ces gens voilà, qui se retrouvent, qui ne peuvent pas forcément l'avoir. Et ça doit être difficile pour eux, parce qu'ils sont obligés de se déplacer. Moi, qui vais qui vais sur Pôle emploi, je vois des gens, ils sont obligés de se déplacer, justement, pour faire leur actualisation, faire des choses, parce qu'ils n'ont pas de numérique chez eux, hein, ou ils ne reçoivent pas. Voilà.
Ouais, Julie, vous qui êtes à l'aise avec tout ça, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré des gens, justement, dans cette situation où il y avait, ils n'avaient pas soit d'appareil, soit d'accès au numérique.
Une amie qui est également suivie par Cap Emploi et ils l'ont aidée justement à tenir un ordinateur à prix parce que justement c'était pour faire des recherches d'emploi, oui.
Ouais. Et vous êtes à l'aise justement par rapport à ça, donc par l'intermédiaire de Facebook, par exemple. Justement, là, est-ce qu'il y a besoin, c'est le parcours classique, est-ce que vous envoyez une lettre de motivation plus un CV ?
Oui.
C'est pareil.
C'est
par mail, quoi. Oui. Tout se passe par mail. Séverine, justement, à propos de cet accompagnement, je dirais une espèce d'initiation au numérique, vous avez quels moyens concrètement ? À Cap Emploi. Vous avez une salle avec des ordinateurs, par exemple ?
Pas au sein de notre structure, mais c'est vrai qu'on va pouvoir retrouver... Alors, pour ma part, j'interviens dans le sud du Loir-et-Cher. Et on va retrouver, par exemple, la maison de l'emploi, qui dépend donc de la communauté de communes du Val de Charcon-Trois, et met à disposition quelques ordinateurs en libre accès pour pouvoir, effectivement, réaliser une candidature, donc être réactif, pouvoir s'actualiser sur le site de Pôle emploi et d'autres démarches encore vers la CAF ou autre. On va retrouver ces lieux, effectivement, aussi sur Blois, plus de lieux encore sur Blois, et notamment la Maison de l'Emploi, effectivement.
D'accord. Alors, il nous reste 2 minutes avant la pause musicale. Est-ce qu'on peut aborder donc l'aspect sécurité et confidentialité autour du numérique, c'est-à-dire, est-ce que vous avez la sensation, les uns et les autres, d'être protégés quand vous faites des recherches sur Internet, des recherches d'emploi, ou est-ce que vous avez la sensation que on sait tout sur vous ? Bérangère ? Vous avez l'impression, est-ce que vous êtes en sécurité? Est-ce que vous avez confiance, finalement, ça, le truc basique? Est-ce que vous avez confiance, a priori
Je vous dis, il n'y a pas si longtemps, je faisais une recherche par rapport au travail que j'aimerais faire. Hein, et j'étais pas du tout... au début, ça allait, on répondait à mes questions, à ma demande, mais après, ça déviait dans tous les sens. Moi, si vous voulez, je suis quelqu'un de persévérante, mais là, quand il y a plusieurs choses qui s'ouvrent, où voilà, je ne comprends pas et j'ai l'impression que ouais, j'ai peur de faire une boulette et que voilà. J'abandonne tout simplement. Je continue pas mes recherches. Non.
Et vous, Julie? Ça vous est arrivé d'avoir... Oui, c'est vrai qu'il y a des fois des fenêtres qui s'ouvrent de manière intempestive.
Ouais.
Et alors, ça peut être de la pub aussi. Oui. Ça peut être... Ça aussi, Julie, vous maîtrisez assez bien. Vous avez,
oui.
Est-ce qu'il y a possibilité... Je pose des questions comme... je ne connais pas très bien non plus, donc c'est bien, vous allez m'éclairer. Mais est-ce qu'il y a des possibilités de se protéger concrètement de mettre ce qu'on appelle, des antivirus, des anti-pop-up,
des
choses comme ça.
Des extensions comme Adblock pour bloquer les pop-up.
Adblock, voilà, ouais. C'est efficace, ça va ?
Oui, c'est très efficace.
Ouais. Donc vous personnellement, Julie, vous vous protégez avec ça aussi ?
Oui, moi je fais très attention à ce que je mets sur Internet, sur les données personnelles.
Ouais.
Par exemple, ne pas parler de mes soucis de santé, ça c'est quelque chose... Voilà, je sais très bien que si on veut trouver, on peut, même en se protégeant comme on veut, donc... Du coup, je fais très attention à ce que je mets sur les réseaux sociaux, dans les recherches d'emploi aussi, sur les CV,
pour pas que l'information soit récupérée à des mauvaises fins, ou c'est aussi pour pas qu'on vous juge, tout simplement.
Oui, aussi, parce que c'est ça. Moi, j'ai connu les débuts d'Internet où on mettait, j'avais 18-20 ans, on mettait tout ce qu'on voulait et on pouvait avoir des commentaires critiques en retour. Être jugé sur sa apparence physique ou sur un truc qu'on a dit. Donc l'expérience apprend à se protéger après.
Laurent ?
Je voudrais simplement dire que là où il faut faire attention et où je veux encore une fois être rassurant, c'est partir du principe que un piratage, je vais principalement parler du piratage, on le voit. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé parfois de recevoir sur ma boîte personnelle des mails en disant c'est pas dit comme ça, je vais le dire un peu familièrement, mais oui, c'est cool, on te propose un poste rémunéré 5000 euros par mois. Alors c'est bien fait parce que c'est dans ce que vous aimez faire, c'est dans ce qui est écrit sur vos CV. Et après, ils vous demandent des renseignements sur votre numéro de téléphone, votre adresse postale, qui est dans le CV. Et quand ils commencent leur message par « J'ai lu votre CV sur le site de Pôle emploi », on se dit « C'est un peu louche ». Donc, à la fois, il faut faire attention, mais quelque part, c'est assez facile de faire attention. Après, c'est comme si on vous pirate votre boîte mail pour dire « Je suis en Grèce, dépanne-moi de 2000 euros ». Voilà. Après, pour si je me sens protégé, je vais être un peu plus optimiste que mes camarades, mais je me sens protégé parce que je me sens capable de maîtriser l'outil informatique. Alors, je suis peut-être totalement inconscient. Chacun après jugera et peut-être que les collègues qui suivront diront totalement autre chose. Mais faire attention au piratage. Et après, c'est quelque part, quand vous vous connectez sur votre compte Pôle emploi, comme votre compte Facebook, c'est votre maison. Et personne n'a le droit d'y pénétrer sans votre permission.
C'est... Oui, mais ça, est-ce que c'est possible concrètement ?
Alors, c'est possible. Après...
Est-ce que vous arrivez à vous protéger ? Sur Facebook, par exemple.
Alors, sur Facebook, c'est marrant, mais j'ai jamais eu de problème de piratage. Après, sur ma boîte mail, j'en ai déjà eu. Je sais ce que c'est et je sais aussi que le site de Pôle emploi a été piraté. Quelque part, je me sens personnellement protégé, mais là où je suis inquiet, c'est pour tout le monde, quoi. C'est pas que mon cas personnel, c'est vraiment des gens qui sont soit, c'est pour ça que je tiens à faire de la prévention, soit qui sont mal informés, soit qui sont pas informés du tout, soit qui sont trop confiants. Voilà, c'est juste ça.
Je suis désolée, on aurait des tas de choses à dire encore, mais on va faire une petite pause musicale avant de changer de plateau et de retrouver nos autres invités. À tout à l'heure. Avec Love is a Losing Game. Donc, on a changé de visage autour du plateau. J'ai près de moi donc Lucie, Bruno, Jean-Pierre et Chloé. Bonjour à vous tous et toutes.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Voilà, donc dans cette deuxième partie d'émission, nous évoquerons l'identité numérique, le numérique et le lien social, mais aussi le numérique et l'e-santé. Alors qu'est-ce que c'est que ça, l'e-santé? On en parle de plus en plus. Mais avant toute chose, Chloé, je vais vous donner la parole. Vous travaillez également en tant que psychologue clinicienne à Cap Emploi. Alors, éclairez-nous. Qu'est-ce que vous faites ?
Donc, j'interviens depuis un an à Cap Emploi dans le cadre de l'accompagnement des personnes présentant des fragilités psychologiques ou un handicap psychique. Et j'accompagne aussi mes collègues pour leur apporter un éclairage et une complémentarité dans le cadre de l'emploi et du fonctionnement et de la singularité de chaque personne.
Donc vous êtes amené à faire des réunions avec vos collègues pour préciser un petit peu les objectifs ou...
Tout à fait, de pouvoir aller au rythme de chacun en fonction de la recherche d'emploi, en fonction aussi des symptômes que le handicap psychique peut amener et accompagner les personnes afin de trouver un emploi qui leur convienne et de se maintenir dans cet emploi le plus longtemps possible.
Bon. Oui, parce que c'est important aussi, bien sûr, la pérennité. Oui, il y a suffisamment de précarité comme ça pour... En plus, c'est source d'angoisse, quoi.
Tout à fait. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir aménager le poste de travail ou de trouver une structure, une entreprise pour accompagner ces personnes dans leur reprise d'emploi.
Bruno, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement dans quelle situation vous vous trouvez actuellement ? Est-ce que vous êtes, vous aussi, à la recherche d'un emploi en ce moment ?
Tout à fait, oui, c'est le cas donc depuis peu de temps, depuis le 1er décembre 2018. Donc j'ai 55 ans et dans le cadre de ma RQTH, j'ai fait le choix d'être...
Oula, excusez-moi.
C'est la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
RQTH, d'accord.
Qui nous permet d'ailleurs de pouvoir bénéficier des services de Cap Emploi. Dans ce cadre-là, voilà, j'ai fait le choix d'être orienté vers Cap Emploi pour initier et finaliser mon projet de reconversion.
Et vous, Lucie ? Alors, je crois savoir que vous êtes en activité en ce moment, non ?
Oui, je suis en formation.
En formation,
oui,
voilà.
Donc, ouais. Moi, je fais beaucoup de choses. j'ai tenté beaucoup de choses. Je suis inscrite officiellement à Pôle emploi depuis mars 2018. J'ai donc ma reconnaissance en travailleur handicapé depuis avril-mai 2018. Et donc, comme Bruno, j'ai fait le choix d'aller voir donc Cap Emploi afin de pouvoir y avoir des appuis, une écoute.
Un accompagnement, régulier, dans la démarche de recherche d'emploi.
Tout à fait, oui.
Jean-Pierre ?
Bonjour.
Bonjour, rebonjour. Vous êtes à la recherche d'un emploi actuellement ?
Actuellement, non.
Non ? Vous êtes en poste ?
Non plus, pas davantage.
Non plus, pas davantage. On va vous retrouver en fin d'émission parce que vous allez nous faire un petit agenda.
Oui.
Ouais. Prenez votre temps, il n'y a pas de souci. On va peut-être parler de l'e-santé. Alors, e-santé, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce que ça recouvre comme terme ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'on peut se soigner par Internet ?
Pour moi. Enfin, si je peux prendre la parole, donc pour moi, l'e-santé, c'est tout d'abord la prise de rendez-vous avec des médecins. Enfin, l'e-santé, ça m'évoque déjà ça. Cette facilité maintenant que l'on peut avoir grâce à des sites comme Doctolib, par exemple, d'avoir des rendez-vous en instantané, de choisir nos horaires. Qui parfois peut être très pratique. Donc moi, par exemple, qui ai des soucis auditifs, je n'entends pas la secrétaire médicale à l'appareil me dire les heures. Donc du coup, Doctolib, c'est très pratique pour moi.
Un exemple concret.
Ouais. Voilà.
D'accord.
Donc, mais je pense qu'on a tous besoin d'exemples concrets de façon à ce que chacun, malgré les différences de handicap ou de fragilité ou de maladie, ont besoin de choses concrètes dans lesquelles ils se retrouvent.
Et vous, Bruno, vous utilisez
le
numérique ?
Une définition courte de la e-santé, c'est les services du numérique au service du bien-être de la personne, déjà dans un premier temps. La télémédecine, on va dire qu'il y a quatre paragraphes finalement, quatre approches.
Ouais.
Ça englobe donc la téléconsultation, d'une part, la téléassistance, la téléexpertise et la télésurveillance médicale.
Ce sont quatre outils que vous connaissez ?
Oui.
Vous les utilisez au quotidien
non,
ou pas ?
Non, certains sont réservés aux professionnels.
D'accord.
Pour prendre un exemple concret, la téléassistance via vidéoconférence, ça peut permettre à un chirurgien de conseiller un confrère lors d'une opération.
Donc ça reste entre professionnels.
Voilà. Et après, il y a aussi les démarches. Je veux dire, la DMP, ça vous permet aussi...
C'est quoi la DMP ?
C'est les données partagées médicales.
Oui, et ça consiste... C'est-à-dire
eh bien, votre dossier médical peut être consulté. Si vous acceptez que ces données soient partagées par n'importe quel professionnel auquel vous avez affaire, ce qui, effectivement, simplifie les choses. Il a d'emblée votre historique et votre dossier. Donc ça, je pense que ça peut être un plus, surtout en cas d'urgence.
C'est quelque chose que vous faites ?
Oui,
vous
tout à fait. Oui. Moi, j'ai accepté de partager mes données médicales.
Et juste une petite parenthèse pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Au niveau sécurité, ça ne vous fait pas peur ? Enfin, il n'y a pas de souci ?
Non, je n'ai pas du tout d'appréhension. Je n'ai pas de souci par rapport à ça. Autant je peux avoir d'autres peurs. Cet outil, cet instrument de communication qu'est Internet, c'est quelque chose que je maîtrise. Quoi. Je veux dire, il faut faire preuve de discernement. Et donc, il y a une implication individuelle, mais il y a beaucoup de sites aujourd'hui sécurisés. Donc, autant utiliser cela. Vous savez, le petit cadenas vert, par exemple, ce genre de choses. C'est vrai qu'on trouve de tout. Hein, donc, moi, j'ai coutume de dire que voilà, Internet, ça peut être ange et démon. Maintenant, c'est le progrès, c'est incontournable aujourd'hui. Mais ce n'est pas quelque chose que je vis mal, c'est quelque chose que je maîtrise, que je contrôle. Et c'est, je pense que c'est essentiel dans la mesure où, si ce n'était pas le cas, ça pourrait être, on pourrait tomber dans une dépendance et dans quelque chose de beaucoup plus pernicieux, finalement.
Et vous, Jean-Pierre, est-ce que vous utilisez Internet, le numérique, pour vos démarches de santé ?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Vous êtes à l'ancienne,
oui,
vous prenez,
je prends le téléphone. Je prends rendez-vous avec mon médecin traitant et...
Et ça s'arrête là.
Et ça s'arrête là.
Voilà, vous préférez faire comme ça. Et ça vous convient ?
Pour moi, ça me convient.
Ouais. À certains moments, vous ne vous dites pas, bon, faudrait que je m'y mette, tout ça, ça ne vous manque pas non plus ?
Non, ça ne me manque pas.
Bon, voilà, c'est clair. Lucie, vous connaissiez ce système de données médicales hein?
Au départ, non. Puis quand je l'ai entendu parler, oui, j'ai eu, je crois avoir vu ça quelque part.
Ouais. C'est quelque chose qui santé. C'est quelque chose qui pourrait vous intéresser au quotidien.
Non, parce que moi, tant que ce n'est pas une nécessité. Je ne le ferai pas, c'est-à-dire que si je me retrouve aux urgences ou autre, ils ont le contact avec mon médecin traitant, avec la carte vitale, tout est... Donc si je pouvais éviter un maximum de démarches, ce serait pas mal.
Ouais. Par rapport à tout ça, tous ces outils justement, est-ce que vous considérez que c'est assez facile ? Alors d'une part d'utilisation, mais aussi les informations en fait qu'on vous renvoie quand on vous demande par exemple des pièces justificatives. Est-ce que c'est simple à renvoyer ? Est-ce que c'est simple à rédiger ? Est-ce que les circuits sont courts ? Voilà.
Personnellement, je ne rencontre pas de difficultés. Mais après, c'est propre à chacun, je pense.
Parce que c'est, vous avez l'habitude.
Oui.
Parce que c'est une pratique quotidienne.
C'est une pratique quotidienne. Et après, c'est aussi un investissement. Ça demande de chacun une certaine motivation. Après, si on ne s'y intéresse pas, effectivement, c'est toujours tout de suite plus difficile. Moi, personnellement, minimalement, ça n'engage que moi, je ne rencontre pas de difficultés particulières pour ce genre de démarche.
Ouais. Oui, non, je suis d'accord. Je suis très intéressée par l'aspect pratique, le fait d'envoyer des attestations sur notre compte Amélie ou quelque chose comme ça. D'abord parce que c'est rapide, il y a une économie de timbre, il y a une économie de papier. Certes, l'achat d'un ordinateur, je le conçois. Mais bon, voilà, c'est surtout instantané, c'est rapide. Après, on peut faire autre chose et voilà. Après, moi, ça me pose pas de soucis dans la mesure où je prends ça avec distance, c'est-à-dire que je comprends un peu des personnes comme Bérangère qui sont intervenues tout à l'heure quand elles ne maîtrisent pas l'outil. Qu'est-ce qu'on me demande là ?
Oui, ça peut être confus, compliqué.
C'est ça. Qu'est-ce que je fais ? Comment je fais ? Comment je scanne ? Comment j'envoie ? Où est-ce que j'appuie ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça, je conçois tout à fait. Hein. Voilà.
Chloé, est-ce qu'à Cap Emploi, vous avez un accompagnement, justement, par rapport à l'utilisation des outils numériques, précisément sur la santé ?
Alors, à Cap Emploi, non, puisqu'on accompagne les personnes vers l'emploi. Mmh. Donc nous, au niveau des données médicales, de toute façon, les personnes nous donnent souvent le nom du handicap. Elles n'ont aucune obligation de nommer leur pathologie, quelle qu'elle soit, somatique, psychique, visuelle, motrice. Et on ne communique jamais à l'extérieur les pathologies des personnes. On ne parle que de restrictions de santé et d'aptitude. Après, en effet, on travaille en partenariat avec certaines cliniques. Et on a l'habitude de travailler aussi avec le CIAS. Donc on oriente les personnes vers les bons interlocuteurs afin de faciliter leur démarche sociale et santé.
Oui. Vous faites le lien entre toutes les structures existantes, parce qu'il en existe, on en parle peu, mais en tout cas, sur Blois et sur le Loir-et-Cher, puisque c'est ce qui nous concerne, vous intervenez un peu partout. Mais oui, vous pensez qu'il faudrait encore un peu d'efforts sur les structures d'accueil ?
donner l'accès au numérique à tous, en effet, peut-être que dans certains lieux, et on le voit en fonction des zones d'urbanisation ou pas, la fracture du numérique, elle existe. Donc après, comment y remédier, c'est une grande question. Mais en effet, peut-être favoriser ce lien avec cet accès au numérique, puisqu'aujourd'hui, on le voit dans toutes les démarches, on a besoin d'un ordinateur. C'est une question qui se pose.
C'est vrai, oui. Et d'ailleurs, je suis étonnée de voir qu'il y a toujours du monde à la bibliothèque, par exemple, de Blois, dans les deux bibliothèques de Blaisoise.
Heureusement.
Il y a toujours du monde, parce qu'on voit bien que les gens n'ont pas tous un ordinateur chez eux. C'est vraiment une réalité qu'il faut rappeler.
Tout à fait, c'est une réalité quotidienne.
Oui, exactement. Jean-Pierre, vous n'utilisez pas le numérique pour les questions de santé. Mais est-ce que vous utilisez, Facebook, les réseaux sociaux, par exemple ?
Je navigue beaucoup sur Facebook, en effet.
Oui. Vous utilisez Facebook pour créer du lien, qu'est-ce que vous faites ? Sans rentrer dans les détails, bien sûr, globalement.
Globalement, c'est pour créer du lien.
Oui. C'est-à-dire que vous recherchez un dialogue. Dans un premier temps, un dialogue avec les gens et après, éventuellement, des rencontres autour d'activités, par exemple, ou comment ça se passe ?
Principalement du dialogue avec d'autres personnes anonymes derrière leur ordinateur.
Anonyme. Vous aussi, ça vous permet de rester anonyme ?
Ça me permet de rester un peu anonyme.
Et ça vous convient aussi ?
Oui, c'est un petit peu ce que je préfère.
Vous avez réussi à créer justement du lien à travers Facebook, mais du lien régulier ?
Oui.
Ouais. Avec toujours à peu près les mêmes personnes ou ça tourne ?
Avec à peu près les mêmes personnes. Au point que maintenant, je suis intégré au sein de plusieurs groupes plusieurs groupes sur Facebook. Uh-huh. Dont deux qui permettent de parler handicap. Le premier s'appelle Vivons mieux avec un handicap. Et le deuxième, c'est un parti qui est en cours de formation qui s'appelle Mouvement du handicap physique et social.
C'est plus une association ou c'est... Comment ça se passe ?
C'est en cours, c'est en train de devenir un parti politique.
Qui revendiquerait quoi, principalement ?
Principalement les droits des handicapés, qu'ils soient physiques, moteurs ou psychologiques.
Ouais.
Ce qui est mon cas. Et d'ailleurs, au sein de ce dernier groupe, je suis l'administrateur d'une page spéciale au sein de ce mouvement, qui s'appelle le groupe MHPS Handicap et Loisirs.
Dans ce groupe,
on parle de l'accès aux loisirs pour les handicapés. Ce sont surtout des articles de journaux qui sont partagés.
D'accord. C'est plus de l'information, en fait.
C'est davantage
de l'information, d'accord. Alors, est-ce que vous vous êtes senti parfois, dans vos pratiques quotidiennes, est-ce que vous vous êtes senti parfois, débordé ? Débordé dans le sens où vous vous êtes laissé happé, soit par les informations, soit par, par des tentations commerciales. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que quand on est, parfois quand on traverse des moments difficiles, qu'on est seul, qu'on a des soucis, etc., est-ce que le numérique peut être un moyen, un échappatoire ? Lucie ?
Moi, je suis quelqu'un d'assez contradictoire du côté oui, c'est bien et non, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, moi qui n'entends pas, ça m'est très difficile parfois de mener à bien des relations à l'extérieur avec le monde réel. Mais ceci étant dit, je n'ai pas envie de me cacher derrière un ordinateur. Pour moi, c'est pas... Pour moi, ce n'est pas une solution. Ça peut être pratique, oui, quand on a la jambe cassée, on ne peut pas bouger. Ou quand on a des amis à 3000 km, on peut se voir, on peut parler en direct. Ça, c'est le côté positif de la chose. Par contre, je ne sais pas. Moi, mes parents m'ont apporté des valeurs. Et le numérique, les communications via SMS, uniquement parfois, pour certaines personnes, par SMS ou par ordinateur, c'est très peu pour moi. Je, je, je peux comprendre, mais je ne partage pas. Mmh. Ça me fait plutôt peur,
ouais.
Cette manière qu'on a maintenant de communiquer. On ne sait même plus écrire. C'est-à-dire que maintenant, quand on communique sur le numérique, on ne dit même plus bonjour, ni cordialement, on dit BJR, CDT, rien. Qu'est-ce que ça donnerait dans le monde réel ? Enfin, moi, c'est des choses qui me sensibilisent et qui me fragilisent, ouais, je vais dire franchement. Ouais, ça...
quand vous voyez ça, par exemple, quand vous faites ce constat,
oui,
vous le déplorez un peu.
Je le déplore, je le déplore parce que maintenant... les mœurs, les communications, ça devient compliqué. On le voit même donc à l'extérieur, dans des lieux communs. On ne communique pas comme avant. C'est pas pareil. Et quand on est fragilisé, quand on a en plus un handicap, on est encore plus, on se sent encore plus seul. Mais pour moi, le numérique n'est pas ma solution. Elle va l'être pendant 2 heures et puis pendant une semaine, un mois, je ne vais pas y aller. Donc voilà, je prends beaucoup, ça avec beaucoup de distance.
Bruno ?
Oui, non, moi c'est pareil, j'ai une opinion assez proche de Lucie. Ce serait plutôt pour moi le non-lien social. Donc pour en revenir à une description rapide ou simple, une définition simple de l'identité numérique, c'est en fait mettre en relation, créer un lien entre une entité réelle, vous, moi, un groupe de personnes et une entité virtuelle que vont représenter les réseaux sociaux, les plus courants, pour ne citer que, je sais pas, Facebook ou Twitter. Et je trouve que, effectivement, c'est associer ces deux mots, enfin, pour moi, il y a quelque chose d'antinomique dans ça. C'est deux contradictoires. Je ne pense pas qu'on crée du lien social de cette façon. Le lien social, c'est avant tout se rencontrer. Alors si c'est utilisé de façon, avec parcimonie, effectivement, on peut y trouver quelques avantages. Ça peut être intéressant quand vous connaissez ou vous avez de la famille, communiquer avec eux par ce biais, s'ils sont éloignés, ça peut être un plus. Mais il ne faut pas que ça devienne une règle, il ne faut pas que ce soit plus, qu'on ne voit plus que par ça. Il faudrait que ce soit quelque chose, un outil de substitution, une sorte de palliatif qu'on utilise de façon modérée. Parce que sinon, je trouve que, contraire, ça produit l'effet contraire. Le lien social, c'est peut-être ce qu'on est en train de vivre là. On est autour d'une table, on se voit, on parle. Et je trouve qu'on s'en éloigne. De ce fait, on s'en éloigne. Donc, moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Donc, moi, déjà, personnellement, je n'utilise pas les réseaux sociaux.
Oui, c'est vrai que comme dit Bruno, ce qui fait peur, c'est que aujourd'hui, cette manière de communiquer via le numérique, c'est devenu automatique.
Vous voulez dire que c'est quasiment un réflexe ?
Oui. Oui, je pense que chez beaucoup de personnes, heureusement, il y a toujours des personnes qui n'auront pas ce geste de manière automatique, mais...
Ça veut dire, voilà. Concrètement, des fois, c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de monde sortir leur portable à tout bout de champ, on va dire.
Complètement. Moi, ce que
je vois... C'est pas votre cas, vous faites pas comme ça, vous.
Ouais, c'est ça. Donc, si un jour je suis en panne de voiture, ça m'est arrivé encore hier soir...
C'est pratique, bon, non, quand même.
Hein,
c'est pratique d'avoir un portable quand on est en panne de voiture dans la campagne.
Alors voilà, justement, le mien n'a pas Internet. Donc, un de mes collègues de formation m'a dit « Attends, bouge pas, je vais chercher. »
Ah bah ça, c'est du lien.
Ça serait très pratique. Oh, merci. Mais il s'avère qu'en fait, on a zoomé sur une photo de garage. Et en fait, c'était pas un garage, c'était une porte d'immeuble.
Ouais.
Donc parfois ça peut avoir des côtés pratiques, mais laisse tomber, j'y vais pas, je vais faire autrement. Donc j'ai fait autrement, j'ai pris mes deux jambes et puis j'ai cherché, heureusement il y avait un garage pas très loin. Et
bah voilà. Oui, non, mais on comprend bien ce que vous voulez dire.
ce mode de communication, oui, prend le pas sur la vraie vie.
Voilà, c'est ça. Oui.
Et donc on est dans une société qui est de plus en plus individualiste et ça va pas aller, ça va dans le sens du... Du coup, ça va dans ce sens. Je veux dire, on va pas améliorer les choses de cette façon. C'est censé à la base réunir les gens, et c'est l'effet inverse qui se produit. Vous n'avez pas 200 amis dans la vie. Sur Facebook, vous avez 200 amis. Mmh. C'est complètement illusoire. Vous avez largement assez des doigts d'une main pour les compter, vos vrais amis.
Les vrais.
Donc, on est en train de parler de la vraie, on va dire, dans la vraie vie. On entend cette expression, ce qui supposerait qu'il pourrait y avoir une fausse vie. Mmh. On marche sur la tête. Enfin, je ne sais pas.
Ouais.
Il y a quelque chose de... Autant, j'entends que ça peut être rassurant, par exemple, pour Jean-Pierre, et pour certaines personnes, effectivement, qui peuvent avoir du mal à communiquer de façon naturelle. Mais ça reste encore une fois l'usage qu'on en fait. Comme toute chose, il faut que ce soit modéré.
Oui, puisque vous disiez vous-même tout à l'heure que par rapport à la santé, vous maîtrisiez bien la chose, quoi. Vous ne vous laissez pas non
oui,
plus
mais il
n'y
a pas que
happer,
des aspects positifs. Si
oui,
on parle de la téléconsultation, ça peut être intéressant pour, je sais pas, un renouvellement d'ordonnance ou pour des choses qui restent relativement basiques. Mais il ne faut pas qu'il y ait de dérive, il ne faut pas que ça devienne la règle non plus. Les déserts médicaux, ce que connaissent les milieux ruraux, ça peut être un plus de temps en temps. Il n'y a pas de médecin, hop, on peut faire appel à la téléconsultation. Mais il ne faut pas que ça se gêne. Enfin, je ne pense pas qu'il faut que ce soit le seul biais aujourd'hui. Le progrès, c'est l'utilisation qu'on en fait. Il y a des aspects positifs, mais il faut toujours le contrôler, le maîtriser. Sinon, c'est lui qui vous mange. Et là, vous entrez dans une forme de dépendance. Et ça, c'est particulièrement dérangeant.
Bien sûr.
Oui, on arrive aux addictions.
Je suis désolée, l'heure tourne. Je voudrais laisser la parole à Jean-Pierre, parce que vous avez des annonces à nous faire dans le cadre de ces deux semaines d'information sur la santé mentale. Il se passe des choses sur notre territoire.
Oui.
Vous pouvez nous dire le petit agenda des jours à venir ?
Eh bien, déjà, on a le ciné-débat au Régent de Montrichard,
ouais.
le cinéma de Montrichard, autour du film The Circle. Le 21 mars, cela concerne les adolescents et les enfants. Et le 25 mars, le débat sera pour les adultes. Ensuite, le 28 mars, nous aurons la grande lessive sur le thème de la couleur.
Ah, juste une petite parenthèse quand même pour dire ce que c'est que la grande lessive. C'est assez extraordinaire cet événement quand même.
Oui, c'est une exposition internationale où l'on accroche des œuvres d'art à la manière du linge de maison qu'on fait sécher comme il y a 30 ans, quoi. Comme quand on n'avait pas de singe-linge.
Je me permets de compléter, Jean-Pierre, la grande lessive. Du coup, on s'inscrit sur Internet. Donc, c'est cet outil numérique qui vient faire le lien social et elle a lieu le même jour, comme vous disiez, au niveau international. Et tout le monde se réunit dans la rue le même jour pour afficher ses œuvres d'art.
Ouais, c'est un événement, on le rappelle, international, initié par une plasticienne.
Tout à fait.
Et donc ça se fera à Montrichard. Vous pouvez rappeler la date, Jean-Pierre ?
Donc le 28 mars, plus précisément à l'hôtel des Fias à Montrichard.
D'accord. Et on peut y aller, c'est visible toute la journée. On peut y aller le matin.
C'est visible toute la journée.
Alors qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Donc le JAM Amila Sud, dont je fais partie, organise ses portes ouvertes le 19 mars. Ils se sont installés à Montrichard il y a un an. Et à destination des seniors qui nous écoutent, un bus numérique est passé le 18 mars et repassera le 22 mars, il faudra réserver auprès de la mairie de Montrichard.
Alors qu'est-ce que c'est que ça, un bus numérique ?
Ben, c'est pour permettre aux seniors de maîtriser l'outil informatique.
Mm-hmm. Donc c'est un bus qui s'arrête
oui, c'est
un petit
bus,
peu...
c'est un bus itinérant qui s'arrête de ville en ville. Mm-hmm. Et les personnes qui seront intéressées par ce...
Pour une initiation, on va dire, à l'informatique.
Pour une initiation à l'informatique.
Ouais, d'accord.
Ils peuvent se renseigner auprès de leur mairie pour savoir quand ils passent.
Et juste aussi une petite précision quand même. Qu'est-ce que c'est le GEM, Amila ?
C'est une association qui est en dehors du soin, qui aide les personnes à se réunir pour diverses activités, sorties, culture.
Plutôt des activités, donc de loisirs. Ou pas seulement ?
Il n'y a pas seulement du loisir, il y a de l'entraide. D'ailleurs, GEM, ça signifie groupe d'entraide mutuelle.
Il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Hein. Est-ce qu'il y a encore des événements à venir, Jean-Pierre ?
Non, j'ai tout dit.
Merci beaucoup. Alors, encore mille fois merci d'être passé à Studio ZEF. Vous nous avez apporté des témoignages éclairants et précieux. Merci à tous et toutes. Vous êtes bien
merci
sûr les bienvenus.
Merci de nous avoir accueillis.
Et vous êtes les bienvenus pour une autre émission sur d'autres thèmes, parce qu'on n'a pas pu tout dire, bien sûr, c'est trop court, une heure. Ouais. Merci à Cap Emploi d'être... Chloé.
Oui, on voulait remercier aussi donc, nos partenaires, bien sûr. Amila qui nous a invités, l'UNAFAM, la FRAPS, la mairie de Montrichard, la mission locale et nos autres partenaires. Et aussi notre directeur Yvan Coelho et notre équipe, puisqu'elle nous a soutenus dans ce projet d'émission de radio.
Ah bah
et,
super.
Et à tous les six qui avaient accepté de participer à ce projet et de venir parler à la radio de votre relation avec le numérique.
Merci beaucoup.
Merci.
Je rappelle que cette émission sera podcastable sur le site de studiozef.fr. À très bientôt à la radio.